dans l'épître aux Romains, comme vous le savez, dans les épîtres de Paul, on a parlé tout à l'heure en parlant d'Éphésiens, il y a souvent deux parties, une partie doctrinale, une partie pratique. Et à partir de Romains 12, de l'épître aux Romains, on rentre dans la partie pratique. Et ça commence par un verset qu'on connaît tous, hein, qui est assez, je dirais, assez extrême, hein, Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et alors je vais vous parler d'un sujet là dans Romains 12, 1, mais après il y aura encore quatre autres sujets dans l'épître aux Romains où nous voyons que Paul nous encourage soit à faire quelque chose, soit à être disponible de recevoir quelque chose. Donc, de toute façon, c'est l'œuvre de Dieu à chaque fois, mais il part d'une prédisposition, si vous voulez. Il y a des choses qu'on ne peut pas créer nous-mêmes, d'autres, oui, on a une décision à prendre. Et là, il s'agit de se présenter à Dieu, c'est-à-dire c'est une attitude de cœur. Comment je vois ma vie, pour le dire autrement, à qui elle appartient cette vie? Parce que si on enlève Dieu de l'équation, il est bien évident qu'en règle générale, notre vie nous appartient. Et puis quand certains remplacent Dieu par autre chose, ils peuvent, je sais pas, donner leur vie pour un dirigeant, un dictateur, ils peuvent être fanatiques pour une cause politique ou autre, on peut donner sa vie pour une idée, mais nous savons que rien n'est au-dessus de Dieu et que si on doit donner notre vie, c'est à Dieu. Mais jusqu'où on peut la donner? Qu'est-ce que ça signifie? En réalité, ça prend toute une vie pour réaliser vraiment le sens de cette demande de Dieu qui consiste à nous offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que tant que je serai vivant, Dieu me demande de me considérer comme mort en réalité, puisque en général un sacrifice il meurt, mais nous on vit, on meurt pas, mais on se considère nous comme mort dans le sens où on croit que nous ne nous appartenons pas. Et nous croyons que nous appartenons à Dieu. Bien entendu, nous sommes un être unique, et en ce sens-là, ça nous appartient. C'est-à-dire que l'expérience que je vis dans mon âme, je suis la seule à la vivre. Et ça m'appartient, cette expérience. Mais ma vie ne m'appartient pas. Mon expérience m'appartient. Ce qui n'est pas la même chose. Et souvent, on a tendance, évidemment, à mélanger les deux. On pense que l'expérience et la personne que nous sommes sont à nous. Alors qu'en réalité, ce qui va être à nous, si on vit correctement avec Dieu, c'est la marche que l'on va avoir avec Dieu. Cette marche, elle nous est propre, elle nous est personnelle, puisque l'âme que j'ai, il n'y a que moi qui l'ai. Il n'y a que Dieu qui peut être à l'intérieur de mon âme et voir, ressentir, discerner tout ce qui s'y passe. Et donc, Paul a dit, je vous exhorte à offrir vos corps à Dieu, c'est-à-dire que la vie chrétienne commence par, et c'est pour ça d'ailleurs, il commence par le verset 1, à dire ceci, c'est-à-dire dès qu'il rentre dans la partie pratique de son épître, tout de suite, il présente enfin, il y a la première demande qui est faite, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Voilà, tout se résume à ça, en fait. Mais ce qui est intéressant, et on le verra avec les autres points aussi, c'est qu'à chaque fois, Paul parle de quelque chose qu'on doit faire ou que l'on doit recevoir de la part de Dieu, accepter de recevoir, mais ça a des conséquences. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est dans la vie pratique là qu'il amène ces sujets dans cette partie pratique, parce que quand on fait ceci, quand on offre notre vie à Dieu comme un sacrifice vivant, il y a des conséquences. Et cette conséquence, c'est une vie, c'est un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Des fois, on peut se poser la question, je sais pas aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu? C'est une bonne question. Mais derrière cette question-là, en réalité, il y en a une autre plus importante qui répond à la première question. C'est la deuxième question, mais est-ce que je donne ma vie à Dieu? Si je donne ma vie à Dieu, je vais faire la volonté de Dieu. C'est pas, est-ce que je vais à l'église, par exemple, on en parlait tout à l'heure, ou je vais prier 10 minutes, ou je fais telle chose. Et là, j'ai peut-être l'impression que je me sacrifie ou que je sers correctement Dieu. C'est bien de faire toutes ces choses-là, mais en réalité, c'est beaucoup plus tranquille dans notre âme lorsque l'on a carrément donné sa vie. Ce qui fait que quand on donne sa vie, à un moment donné, le Saint-Esprit va nous dire, bah, t'avais prévu telle ou telle chose, mais là, je te demande peut-être calmer, t'asseoir, de méditer, de prier. C'était pas prévu. On avait peut-être prévu de faire quelque chose de bien pour Dieu par ailleurs, aller visiter un frère, une sœur, et ce qui est bien aussi. Vous voyez, c'est pas une histoire de bien ou de mal. C'est simplement, est-ce que j'ai donné ma vie à Dieu? Et du coup, est-ce que Dieu en fait ce qu'il veut de ma vie, ou est-ce que c'est moi qui agence les choses pour plaire à Dieu, et pour obéir à Dieu? Et on rentre en fait dans un système égaliste. Et là, Paul dit, la conséquence d'un sacrifice comme ça à Dieu, c'est que c'est un sacrifice qui est vivant, c'est-à-dire que il va y avoir vraiment une vie en nous. Que ça soit une vie, je parle pas de difficultés, de tristesse, de déception parfois, de larmes ou autre, de souffrance. Là, je parle simplement de la paix de l'âme au-delà de tout ça. Lorsqu'on donne notre vie à Dieu, il y a une paix, il y a une vie en fait en nous. Et cette vie en nous, c'est celle de Dieu, et on va la donner aux autres. Et donc ça plaît à Dieu, c'est-à-dire que de donner notre Dieu, notre vie, quand je sais pas, on se donne en martyr, il y en a qui se font exploser pour une cause, ils donnent leur vie aussi. Ils prétendent, ils espèrent que ça va produire de la vie ensuite, mais toujours est-il que eux vont mourir, il n'y aura pas la vie en eux, ce sera terminé. Alors que nous, c'est un sacrifice vivant, c'est-à-dire qu'on va, et voilà, Seigneur, je suis là et je t'appartiens, je suis à toi, et c'est ta vie maintenant qui va être dans la mienne. Et du coup, ça va engendrer une vie sainte, c'est-à-dire dans le sens de séparer, de mise à part. À partir du moment où j'offre ma vie, si j'accepte le fait qu'elle ne m'appartienne pas, forcément elle est mise à part pour Dieu, elle est sainte. Et du coup, elle est agréable pour Dieu. C'est-à-dire que c'est l'objectif de Dieu. C'est pas uniquement dans ce qu'on fait dans le détail. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être un avec lui. Et Dieu, ça c'est sûr, est exigeant, hein. Dieu est très très exigeant. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Ça c'est sûr. Je veux dire, vous ne pouvez pas imaginer une relation de confiance avec Dieu si vous avez une retenue quelque part. D'une certaine manière, ça peut se décliner aussi dans les relations humaines. Mais sauf que on n'est pas Dieu dans les relations humaines. Il n'y en a pas un qui doit être Dieu sur l'autre. Mais la confiance, c'est la confiance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retenue. Et la vie chrétienne consiste à être en paix avec Dieu. Donc lui, il a fait sa part en envoyant son Fils. Donc maintenant, lui, il a la paix avec nous. Mais nous, on ne sera jamais en paix si on garde notre vie. Donc il faut livrer notre vie. Et donc, il va y avoir des conséquences. Ça va plaire à Dieu, c'est vivant et c'est saint. Et ce qui est intéressant, là, c'est quand le verbe offrir en grec, paristémie, ça parle d'être une vie qui est placée à côté, sous-entendu à côté de Dieu. Et c'est de mettre à disposition quelque chose à quelqu'un. Et donc, offrir nos corps en sacrifice vivant, c'est mettre notre vie à disposition de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux en faire de ma vie? Voilà, je te laisse, je la mets à ta disposition. Et ça a donné, ensuite, dans le langage illustré, poétique, c'est entré dans une camaraderie ou une intimité. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'est pas intime avec des gens avec qui on n'a pas confiance. On partage des choses avec des gens en qui on a confiance. Sinon, c'est sous la torture qu'on les dit. D'accord? Mais les choses intimes, c'est qu'on ose les dire parce qu'on a confiance. Et avec Dieu, c'est ça. C'est Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire de ma vie, mais j'ai confiance en toi. Il y a une intimité. Je me livre. Je me mets à côté de toi, à portée de main. Je suis à ta disposition. Et donc, je suis ton ami et je suis intime avec toi. Ensuite, le verset 2, il est dit, Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors là, vous voyez, là où il y a une petite différence, et en même temps, ça va demander pour nous des décisions, vous allez comprendre pourquoi, mais dans un premier temps, quand il est dit soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, ça veut dire qu'on subit l'action. Et donc c'est pas moi qui peux transformer mon intelligence, ça c'est sûr. C'est doit être Dieu qui fait l'œuvre dans mon âme. Néanmoins, pour que Dieu puisse transformer mon intelligence, il faut que moi j'y mette du mien aussi. Je m'explique. Comment sommes-nous transformés dans notre intelligence? On est transformé par la parole de Dieu, vous êtes bien d'accord. Ce qui fait que si je ne vais pas écouter la parole de Dieu, si je ne médite pas la parole de Dieu, si voire même je ne l'apprends pas, je la mémorise pas, je mémorise pas des versets, si je la mets pas en pratique, je vais pas avoir mon intelligence renouvelée. Donc c'est Dieu qui va faire l'action, c'est-à-dire que les plus grandes richesses qu'on peut recevoir quand on écoute un message, c'est quand Dieu va nous parler au travers de ce message. Le message peut être excellent et on va apprendre des choses, mais quand à un moment donné, Dieu fait quelque chose dans notre âme où il y a ce qu'on appelle un phénomène de conversion, ça ne veut pas dire que c'est lié à un péché, hein, c'est simplement une façon de penser, on a un éclairage particulier, on découvre quelque chose et on sent que c'est Dieu là qui nous touche. Donc c'est Dieu qui fait l'action, mais il a pu faire l'action parce que je me suis placé au bon endroit. Alors il y a aussi la disposition de cœur, bien entendu, hein, de vouloir obéir, etc., de pas être résisté à la parole. En tous les cas, dans mon emploi du temps, et c'est là où il y a une œuvre à faire, c'est que dans mon emploi du temps, quels sont les endroits où je me place de telle manière à ce que Dieu puisse faire quelque chose. Là, j'ai eu un coup de fil de quelqu'un aujourd'hui qui a un parcours très 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 compliqué depuis des années, donc faut prendre cette personne comme elle est, et je dirais donner des conseils en rapport avec ses capacités, et en même temps, c'est une femme dont il s'agit, qui est spirituelle, oui, spirituelle, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, c'est une personne qui cherche Dieu, qui a rencontré Dieu, et qui essaie de s'en sortir avec Dieu comme elle peut. Toujours est-il que cette personne, donc, est dans une phase en ce moment où elle prie beaucoup, et elle témoigne aussi, mais elle me disait qu'elle avait du mal à lire sa Bible. Et donc j'ai bien aimé cette transparence, mais je l'ai encouragée en disant, tu sais, fais un effort, place-toi sous la parole de Dieu, parce que là, tu pries, tu fais des choses, parce que tu te souviens de ce que tu as pu recevoir pendant des années, mais tu as besoin d'un régime alimentaire aujourd'hui, et donc il faut te placer sous la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous permet à chaque fois d'être transformés par le renouvellement d'intelligence. Et du coup, il y a, tout comme je disais tout à l'heure, à chaque fois, il y a Paul qui demande qu'on reçoive quelque chose ou qu'on fasse quelque chose, et il y a des conséquences. Et là, il va la même chose, c'est-à-dire que quand on est transformé dans le renouvellement de notre intelligence, la conséquence, elle est toujours dans le même verset, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez? Donc, et ce qui est drôle, c'est que là où il y a un parallèle entre les versets 1 et 2, c'est que dans le verset 1, je donne ma vie, et qu'est-ce que ça va donner? Il va y avoir une sainteté, une vie, et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je me rappelle plus. Et c'est agréable à Dieu. Mais s'il n'y a pas le verset 2, je vais pas pouvoir discerner la volonté de Dieu. Donc je peux toujours donner ma vie à Dieu, je peux toujours dire je me consacre à Dieu. Si je ne suis pas renouvelé dans mon intelligence, je vais pas discerner la volonté de Dieu. C'est extraordinaire comment on peut être, des fois, on a une aptitude à être sincère tout en étant dans l'erreur. Et ça fait beaucoup de mal dans le christianisme. C'est-à-dire que on a des bonnes intentions émotionnelles souvent, hein, on se sent bien, on a reçu l'amour de Dieu, on est reconnaissant, et on veut faire, mais néanmoins, comme on n'a pas été renouvelé, on fait à notre manière. Moi, je me rappellerai toujours quand on était avec des missionnaires américains, quand ils étaient en France, et merci Seigneur pour ces missionnaires, parce que ça m'a aidé autant que faire se peut à sortir de moi-même, parce que je suis français, je pense, jusqu'au bout des ongles, on était tous des Français, voilà, avec une mentalité. Ici, on fait pas comme ça, ce sera pas possible, etc. Et nous, on avait des Américains qui pensaient autrement, et pas parce qu'ils étaient Américains uniquement. C'était en partie ça, mais c'était aussi parce qu'ils avaient une vie de foi, c'est-à-dire qu'ils croyaient. Et ce qui fait que ce qui était impossible, parce que nous, on faisait les réponses d'avance. Je sais pas, demander l'autorisation à un maire, par exemple, de faire telle ou telle activité, il dira non. Et voilà, on faisait les réponses avant. Et puis en fait, on se trompait, on demandait et il y avait un oui. C'est-à-dire que il y a des portes qui s'ouvraient tout simplement parce que nos conducteurs, qui étaient en l'occurrence américains, avaient des pensées de foi, ils avaient des pensées renouvelées. Et donc, je me rappelle, alors c'est un autre contexte, là il faut évidemment que je vais pas comparer, mais je me rappelle toujours, Pasteur Chalor m'expliquait quand ils sont arrivés à Budapest la première ou la deuxième année. Alors c'était une période, je dirais, pas anarchique, mais c'était quand même spécial, hein, le mur de était tombé, il y avait des gouvernements en place, mais voilà, c'était quand même un peu poreux. Mais ils ont, entre guillemets, utilisé cette période-là pour le Seigneur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont décidé de faire une crèche vivante à Budapest, Et donc, il fallait un âne, il fallait des chevaux, il fallait tout un cortège dans la ville, etc. Et de fil en aiguille, ils ont tapé aux portes et ils se sont retrouvés à faire cette crèche vivante, je crois, dans la cathédrale de Budapest. Et comme il fallait des chevaux, c'est des militaires, des cavaliers militaires qui ont été des figurants dans cette crèche. L'âne, il a été emprunté dans un zoo de la ville. Enfin, je veux dire, toutes les portes se sont ouvertes pour faire une crèche, mais ils ont tapé à la porte du Premier ministre à l'époque. Vous voyez, aujourd'hui, ce serait peut-être pas possible. Alors, je sais pas que, je pense que, comme un Français, mais je sais que la période est différente. Mais à l'époque, il y avait des possibilités extraordinaires, mais que peut-être nous, dans notre pensée naturelle, on n'aurait même pas osé. Mais là, ils l'ont fait, et on voit que Dieu a ouvert des portes. Donc, ça, c'est un point important, c'est qu'on a besoin d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Combien de fois j'ai entendu des gens nous dire, ah, vous évangélisez dans la rue, mais ça intéresse personne. Ben, je regrette, les gens s'arrêtent et on discute. Alors, ça amène pas forcément des gens à Christ dans la minute, mais toujours est-il que on peut semer sans problème, et il y a des gens intéressés. Et la seule chose, c'est que nous, on pense, non, la religion, c'est une affaire privée, on va déranger, ils vont pas s'arrêter, etc. Ben non, il y a des gens qui s'arrêtent pour qui ce sujet est important, et donc il faut pas penser naturellement, et c'est pareil dans plein de domaines, dans le domaine de la sexualité, dans le domaine du couple, dans le domaine de l'éducation des enfants, tout doit être renouvelé par la parole de Dieu, par les pensées de Dieu. Et je rappelle, hein, je l'ai souvent dit, mais enfin déjà le verbe conformer là, quand il est dit ne vous conformez pas, le verbe là pour conformer, c'est schumatizo. Non, sous-schématiso, qui a donné évidemment le mot schéma chez nous. C'est-à-dire que on a trop tendance à obéir à un schéma, et il ne faut pas forcément accepter tous les schémas. Et en revanche, il faut être transformé. Et là, c'est le mot métamorpho en grec, qui est traduit en Matthieu lorsque Jésus est transfiguré. Donc, c'est aussi le mot métamorpho. Hein, quand il est transfiguré, en fait, il est métamorphosé. Et donc, c'est le même verbe qui est utilisé. C'est-à-dire que quand on est renouvelé, on est en fait, on est transformé et on change d'une forme à une autre. Et c'est l'apparence de Christ qui commence à inonder nos pensées, tout comme Christ a été apparu glorifié quand il a été transfiguré. Et donc ça, c'est un point important. Mais pour cela, il faut se placer de telle façon à ce qu'on puisse être renouvelé dans notre intelligence. Troisième chose aussi, alors là qui ne dépend pas de nous, là vraiment, c'est Dieu qui a tout fait. C'est que, on voit ça dans Romains 12, versets 6 à 8, je vous lis le passage. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc là, une chose qu'on peut remarquer, alors il y a une chose évidente et puis il y a des choses qui sont induites. La chose évidente d'abord, c'est que nous recevons tous, et c'est là où ça dépend uniquement de Dieu, des dons. On reçoit tous des dons différents. Vous remarquerez l'ordre, hein. Il est bon d'abord de donner sa vie, d'être renouvelé dans son intelligence, et puis après on parle des dons. Parce que je vais très mal exercer mes dons si je donne pas ma vie et si je suis pas renouvelé dans mon intelligence. Je peux être un évangéliste né. Quand je dis né, c'est né de nouveau. C'est-à-dire que Dieu m'a donné ce don. Mais si je raconte n'importe quoi sur le salut, ça va pas aller. Et si j'essaye de faire des disciples sous mon nom plutôt que sous le nom de Christ, et que j'essaye d'amener à moi des brebis au lieu de les amener à Christ, je suis pas un bon évangéliste non plus si mon ego est surdimensionné. Donc, on voit là, c'est que d'abord j'offre ma vie. Elle n'est plus à moi, elle ne m'appartient plus. Ensuite, je suis renouvelé dans mon intelligence. Et troisième point, puisque nous avons des dons différents, donc ça c'est un point important, c'est que la grâce de Dieu, hein, il le dit selon la grâce qui nous a été accordée. C'est-à-dire que Dieu nous a donné des dons. La question c'est qu'est-ce que nous en faisons? Et là, il explique après, c'est qu'on va les utiliser au sein du corps de Christ. D'accord? Au sein du corps de Christ, on va utiliser ces dons. Alors après, je ne refais pas toute la liste. Mais le point est important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parlait tout à l'heure dans nos échanges. On va manifester une vie spirituelle au sein du corps de Christ. Et si j'ai des dons et que je les manifeste pas au sein du corps de Christ, ces dons, d'une certaine manière, ne servent à rien. Donc, reconnaître les dons que Dieu a placés dans ma vie, c'est important, et je dois le remercier pour cette grâce qui m'a été faite de recevoir des dons. Un point important, il précise, nous avons des dons différents. Qu'est-ce que ça sous-entend? Un des pièges dans lequel on peut rentrer, c'est de croire que ce que nous sommes suffit. C'est-à-dire, j'ai ma vie avec Dieu, etc. Je vais à l'église, mais de loin. D'accord? Je n'ai pas forcément l'unité de cœur avec une assemblée, et je vis pas grand-chose avec les frères et sœurs. Qu'est-ce que ça sous-entend? Regardez au verset 10, il dit, nous avons tous des dons différents. Ça veut dire que nous les avons pas tous. Ce qui fait que si moi je vis ma vie chrétienne de mon côté, il y a des dons dont je ne profiterai pas ou que je ne verrai et je ne les verrai pas s'exprimer puisque moi je ne les ai pas. Nous avons des dons différents. Donc on voit que les versets 6 à 8, Paul sous-entend que comme ils sont différents, on a besoin d'être tous ensemble pour qu'il y ait la plénitude de ces dons qui se manifestent. Et c'est pour ça qu'après il dit que celui qui a le don de prophétie le fasse de telle manière, celui qui est appelé au ministère fasse ça, celui qui enseigne fasse ça, celui qui exhorte la libéralité. Vous voyez, on a des dons différents et c'est ensemble qu'on va profiter de la plénitude de ces dons. Et c'est donc une manière, quelque part, de recevoir Christ dans toute sa plénitude. Bien sûr, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais avec les dons que j'ai, donc je les ai pas tous, quand bien même je marche, je dirais, parfaitement avec Dieu au quotidien, ce qui n'est pas le cas si je n'ai pas d'église locale, mais en admettant en tout cas dans tout ce qui est dans la partie de ma vie qui est privée, eh ben je manque quelque chose parce que je vais pas recevoir des autres les dons qu'ils ont et que je n'ai pas, et moi je ne vais pas administrer mon don aux autres si je reste de mon côté. Donc on voit qu'il y a des conséquences, vous voyez, c'est qu'on a donné des dons, le sous-entendu, c'est qu'il faut le vivre avec les autres pour pouvoir les donner. D'accord? Donc ça, c'est un point important. C'est pour ça qu'on voit que cette partie est très pratique. Après, on passe à un autre sujet, alors qui rejoint un petit peu la thématique de ces dernières semaines, hein. C'est Romains 13, c'est chapitre 13, où il est parlé des lois civiles. Et donc là, il est dit au verset 1 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été institué de Dieu. Alors en grec, là, ont été institués de Dieu. Pour moi, ça me parlait plus d'avoir un autre sens. Ça veut dire placé en ordre. Et j'aime cette expression parce que ça signifie que c'est vraiment Dieu qui a dit, bah voilà. Alors je vais donner des noms, mais le maire de Paris, la maire de Paris, bah c'est elle, c'est Hidalgo. Le président de la République, c'est Macron, c'est lui. Voilà. Donc Dieu place en ordre les choses. C'est lui qui l'a fait. D'accord? Donc c'est pas il a institué quelque chose d'un peu anonyme. Non, non, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées, placées en ordre par Dieu. Et donc qu'est-ce que ça sous-entend là? C'est que pourquoi je dois me soumettre aux autorités? Donc là c'est un acte, c'est d'obéissance là pour le coup. C'est pas quelque chose que je reçois, c'est Dieu qui me demande, qui commande sa volonté. C'est parce qu'il est dit dans ce verset qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ça sous-entend que je vais honorer Dieu en me soumettant aux autorités. À partir du moment où je reconnais que Dieu a institué les autorités, en m'y soumettant, je me soumets à l'ordre que Dieu a voulu, à ce qu'il a fait, puisque c'est lui qui l'a fait. Vous voyez, c'est une manière de le glorifier, de l'honorer. Et c'est pas simplement parce que par ailleurs, Dieu veut. Je sais pas, il veut que les choses soient en ordre dans le pays, donc faut que vous soyez soumis. Oui, ça aide évidemment quand il y a l'autorité à qui on obéit, c'est plus facile de gérer un pays. Et il y a une bénédiction de Dieu derrière. Mais c'est pas uniquement ça, c'est que nous, en tant que croyants, on manifeste, on témoigne du fait que, bah oui, nous reconnaissons que c'est Dieu qui a institué ces autorités. Alors l'équilibre avec ça, hein, rappelez-vous dans le livre des Actes, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux autorités. Là, c'est dans le cas où les autorités nous demandent de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu au niveau de notre foi et de notre croyance. D'accord? En revanche, tout ce qui touche pas de la foi, on peut ne pas être d'accord, mais on se soumet aux autorités. Vous voyez? Donc c'est un équilibre à trouver, du discernement à avoir, et c'est la parole de Dieu qui nous permet de discerner cela. Donc on honore les lois civiles parce qu'on reconnaît que c'est des autorités qui viennent de Dieu. Ensuite, toujours au chapitre 13, il est parlé de l'amour. Romains 13, 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Là, c'est très facile à comprendre. Il y a un ordre qui nous est donné, aimer les autres, conséquence, on accomplit la loi. C'est intéressant, parce que, encore une fois, on peut être nous, encore une fois, on peut être légaliste, hein, tous autant que nous sommes. On peut, voilà, attacher de l'importance à ce que j'ai fait aujourd'hui, mon emploi du temps. Il y a quelque chose que Dieu m'a demandé, c'était un peu difficile, mais je l'ai fait, c'est une victoire. Ok, tout ça, c'est bien. Mais il y a quelque chose de plus grand encore. C'est que si j'aime Dieu, ben, j'accomplis la loi, j'accomplis en fait tout ce que Dieu me demande. D'accord? Parce que tout ce que je vais faire, là, je vois notre sœur qui est au local et qui va faire de la compta jusqu'à pas d'heure tout à l'heure. C'est une manière d'aimer, d'accord? C'est-à-dire qu'elle elle accomplit la loi de Dieu, elle donne sa vie, et donc elle voilà, c'est une manière de manifester la vie de Christ qui est en nous. Et donc on ne se doit rien les uns les autres. C'est-à-dire que moi, je ne vous dois rien sauf de vous aimer. Et de vous aimer, ça veut dire quoi derrière? Ben, ça veut dire vous pardonner, être patient. Si j'ai un don particulier, ben pour le mien, pour mon cas, c'est celui d'enseigner. Eh ben, je vais vous enseigner. C'est-à-dire que tout ça, c'est revêtu par l'amour, si vous voulez. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, j'en parlerai sans doute dans le cours d'homilétique que je vais donner là prochainement. C'est que une des choses qui m'a aidé à mon bureau, quand des fois c'était un peu long, fatigué d'étudier et tout, c'est que ce qui me motive plus, je peux vous garantir. Non, il y a deux choses qui me motivent, je dirais, pour être honnête. Au même niveau. Il y en a un, c'est la curiosité de savoir ce qu'il y a dans la parole de Dieu, de découvrir quelque chose. C'est tellement bénissant et tellement vivifiant que ça me motive pour étudier. Mais l'autre, qui est au même niveau, c'est que pour moi, c'est un acte d'amour. C'est que le fait d'étudier et de préparer un message et d'avoir quelque chose de conséquent à donner de loin et en pensant que c'est le sujet que Dieu veut pour l'assemblée, c'est une manière d'aimer les gens. Évidemment, c'est pas de l'embrassade, c'est pas bisounours, ça se voit pas, c'est dans le secret. Tout comme lorsque quelqu'un prie pour moi, il m'aime, même s'il me le dit pas, mais c'est un acte d'amour aussi, puisqu'il demande à Dieu des bénédictions pour moi, spirituelles. Vous voyez? Et donc la prière, c'est pas simplement je prie parce que j'ai ce don-là, j'aime prier, et puis c'est la volonté de Dieu. Tout ça, c'est vrai, mais derrière, c'est un acte d'amour. On prie pour les perdus, c'est un acte d'amour. On prie pour les autorités, c'est un acte d'amour. On prie pour quelqu'un qui a une situation difficile, c'est un acte d'amour. C'est que en aimant, on accomplit la loi de Dieu. Donc, on s'aime les uns les autres, conséquence, on accomplit la loi de Dieu. Ensuite, le quatrième point, c'est on recherche la paix. Romains 14, donc chapitre suivant, verset 19. Romains 14, verset 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Là, c'est intéressant parce que la recherche de la paix engendre de l'édification. La guerre détruit, la paix construit, toujours. Et donc, on recherche la paix, conséquence, ça produit une édification mutuelle. Et c'est pour ça que quand on a des différends, par exemple, on va essayer de les résoudre avec une attitude de paix pour édifier l'autre. Quand on est en guerre, c'est qu'on veut tirer, d'une certaine manière, on veut avoir la victoire pour soi, et donc on ne veut pas céder. Rechercher la paix, c'est accepter, je vais utiliser ce mot, des compromis, mais en tout cas, il ne faut pas trop en faire des fois, mais en tous les cas, on va y mettre du nôtre, comme on dit, pour rechercher la paix chez l'autre, avec l'autre. Et quand on va rechercher la paix, tout ce qui contribue à la paix, ça va produire de l'édification. Très souvent, moi, j'interromps les conversations dans certaines situations parce que ce n'est pas édifiant. Et donc, c'est pas les gens veulent me parler de certaines choses, de certaines personnes, sans avoir l'objectif de résoudre, mais avec l'objectif de détruire. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Les gazettes sont là pour ça, pour vendre du papier, mais moi, j'ai rien à vendre, j'ai rien à. Il n'y a aucun profit à tirer d'informations négatives dont qu'on ne peut pas utiliser pour le bien après. Donc, du coup, ça reste de la calomnie ou des mauvaises informations. Ça doit c'est l'édification. Sauf évidemment s'il y a un danger. Mais sinon, on doit rechercher l'édification mutuelle et rechercher en permanence la paix. Donc, je cherche la paix, conséquence, c'est édifiant. Et puis, Romains 15, et je terminerai là-dessus. Là, ça nous parle de la communion fraternelle. Au verset 5, il est dit, Romains 15, 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments. Alors, c'est pas une émotion, hein, les mêmes sentiments, c'est dans le sens français qu'on utilise aussi dans certains contextes, hein, c'est d'avoir un même avis. Donc, d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Selon Jésus-Christ, c'est important, hein. C'est-à-dire qu'à partir de des fondements doctrinaux et de notre vie de sacrifice, de notre pensée renouvelée, ensemble, idéalement, on a les mêmes sentiments. Et que se passe-t-il quand on a les mêmes sentiments? C'est un synonyme en réalité d'unité, d'accord? L'amour qui règne au milieu des saints. Qu'est-ce que cela produit? Ça produit le verset 6. Le verset 6, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un point important. Pourquoi on essaye d'avoir les mêmes sentiments pour glorifier Dieu? Pas pour simplement se faire plaisir, et même si ça nous fait plaisir, pas essayer d'imposer nos vues et pour que les autres aient les mêmes sentiments que nous. Non, on va rechercher, tout comme avec la paix, les mêmes sentiments dans le but de glorifier Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est intéressant de voir qu'au travers de ces points-là dont je vous ai parlé, il y a des recommandations pratiques, soit une attitude qu'on doit avoir pour recevoir ou pour des fois une disposition de cœur pour faire certaines choses. Il n'y a qu'un point où là c'est les dons on les reçoit entièrement, on n'a rien pas de prédisposition particulière à avoir, c'est dans sa souveraineté que Dieu nous les donne, mais qu'à chaque fois que l'on obéit, qu'on fait, qu'on reçoit, ça produit quelque chose. Va avoir un impact. Ça va avoir un impact dans le monde. On va glorifier Dieu. Ça va amener l'unité dans l'Église. On va distribuer les dons à ceux qui ne les ont pas. Et nous, on va recevoir le don des autres alors que nous n'avons pas, etc., etc. C'est-à-dire que ça va engendrer une vie chrétienne harmonieuse. Et donc cette vie chrétienne harmonieuse, elle va se construire d'abord à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que Paul nous encourage à obéir à certains principes qu'il énumère ici. Et ensuite, ça va produire quelque chose autour de nous, que ça soit dans le pays et aussi au sein de nos églises locales et de nos familles. Donc c'est pas rien, on n'est plus là dans le légalisme dans le sens où Dieu n'attend rien de nous pour qu'on puisse sauver notre peau, il nous a sauvés. Donc là, c'est simplement en toute paix qu'il nous dit ça. Rappelez-vous, hein, cette partie de l'épître vient après tout le discours de Paul sur l'assurance du salut, hein. Rappelez-vous, Romains 6, Romains 7, Romains 8. Donc on est vraiment béni, comme le dit toujours le même Paul en Éphésiens, de toutes bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes en Christ. Mais ayant cela maintenant avec Dieu, cette paix avec Dieu, marchons avec Dieu sur cette terre qui est la nôtre. J'en parlais là, je reviens brièvement sur le message de dimanche matin à Montpellier, où je disais qu'en fait, une des barrières que Dieu a instituées, c'est la mort, c'est-à-dire on est sur cette terre. Et à partir du moment où on est, on sait qu'on va mourir et on ne peut pas sortir de ça. C'est une prison, d'accord? C'est la loi du péché, les conséquences du péché. Et c'est une lourdeur que nous portons. Mais Dieu a ouvert le ciel pour nous, et donc maintenant, sur cette terre, on est libre. La vérité nous a rendus libres, parce que nous savons que les portes du ciel nous sont ouvertes. On est encore ici-bas, mais par contre, on a une liberté de penser autrement, de vivre autrement et d'exercer les dons que nous avons. Que Dieu vous bénisse.